VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour l'Afrique, Morgane Guiriec au micro, Annette Burtson à mes côtés et bienvenue à cette édition du mercredi 22 avril 2015. Au sommaire ce matin,
en Mauritanie, un ancien haut responsable d'Al-Qaïda, le Mauritanien Younis Al-Mauritani, a été condamné hier à 20 ans de prison ferme.
Naufrage dans la Méditerranée, le commandant du chalutier a été désigné responsable principal de la tragédie qui a fait des centaines de morts le week-end dernier.
Procès Hissène Habré à Dakar, c'est demain que le magistrat burkinabé Berdéo Gustave Kam prendra ses fonctions en tant que président de la Cour d'assises des Chambres africaines extraordinaires, chargé de juger l'ancien président tchadien.
En Afrique du Sud, l'armée va être déployée dans le township d'Alexandra à Johannesburg pour aider dans la lutte contre les violences xénophobes.
Chaque immigrant qui habite avec les autochtones de l'Afrique du Sud se sent en danger. Moi, je n'appelle pas xénophobie, moi j'appelle ça afrophobie.
Ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais d'abord, le journal.
En Mauritanie, un ancien haut responsable d'Al-Qaïda, Younis Al-Mauritani, a été condamné hier à 20 ans de prison ferme. Henri Francisque.
Abderrahman Ould Mohamed Al-Hussein, dit Younis Al-Mauritani, a écopé de 20 ans de prison. Son procès s'est tenu à huis clos et sous haute surveillance policière devant la cour criminelle du tribunal de Nouakchott, chargé du terrorisme. Younis Al-Mauritani, dont l'âge n'est pas précisé, a été arrêté en septembre 2011 au Pakistan, puis rapatrié en 2013. Sa capture, quelques mois après la mort d'Oussama Bin Laden, avait été présenté comme un sérieux revers pour Al-Qaïda. Depuis son extradition, il était gardé dans un lieu tenu secret. Nouakchott avait lancé un mandat d'arrêt international contre lui après l'avoir accusé de participation à une attaque contre une caserne de l'armée en 2005 et une fusillade avec la police à Nouakchott en 2008. Plus d'une trentaine de djihadistes sont actuellement en détention en Mauritanie, dont une quinzaine condamnés à mort ou à la prison à perpétuité.
Et des soldats salvadoriens prochainement au Mali. Le ministère de la Défense de ce pays d'Amérique centrale a en effet annoncé qu'il enverrait 90 soldats pour participer aux activités aériennes de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. D'après l'AFP, ce bataillon formé par des soldats des forces spéciales, des ingénieurs et du personnel de sécurité sera sous les ordres du colonel Juan Aníbal Hernández et comptera 3 hélicoptères, des véhicules de transport et d'autres équipements militaires. Il sera déployé avec le soutien des États-Unis et de la France dans la ville de Tombouctou. Le contingent aérien de la MINUSMA réalisera des activités liées au transport de personnel, à l'escorte, à la surveillance et à la reconnaissance aérienne, des missions de recherche et de sauvetage, du transport médical et des patrouilles aériennes diurnes et nocturnes, a expliqué le ministère dans un communiqué.
Du nouveau sur le tragique naufrage qui a fait des centaines de morts en Méditerranée, le commandant du chalutier a été désigné responsable principal par le parquet de Catane en Sicile. D'après l'AFP, l'inculpation de ce Tunisien de 27 ans ne semble guère faire de doute. Il est accusé de naufrage involontaire, d'homicide multiple involontaire et d'avoir favorisé l'immigration clandestine. Pour les procureurs en charge de l'enquête, l'homme a provoqué le naufrage en surchargeant son navire et en se montrant incapable de le manœuvrer à l'approche d'un cargo portugais venu le secourir et avec lequel il est entré en collision. Les deux passeurs, comptant parmi les survivants de cette nouvelle hécatombe de migrants, avaient été arrêtés hier. Ils seront entendus vendredi par un magistrat qui décidera ou non de les inculper. En attendant, ils restent incarcérés à Catane. Le bilan du naufrage est officiellement de 24 morts et 28 survivants, mais le nombre des disparus est estimé à environ 800 par les organisations humanitaires internationales.
Et sachez aussi que le Premier ministre britannique David Cameron dit vouloir empêcher les migrants de prendre la mer afin de mettre fin à ces cargaisons de la mort. Il exposera les détails de ce plan jeudi lors du sommet extraordinaire des dirigeants européens pour répondre à ce drame, l'un des plus tragiques qu'ait connu la Méditerranée.
République démocratique du Congo, le procès en appel des assassins présumés de Floribert Chebeya a repris hier à Kinshasa après près de 2 ans d'interruption. Le défenseur des droits de l'homme avait été retrouvé mort dans sa voiture le 2 juin 2010. La veille, il s'était rendu à l'inspection générale de la police pour y rencontrer le général John Numbi. Le point avec Eddie Isango.
L'audience a duré 3 heures devant la haute cour militaire, dans l'enceinte de la prison de Makala à Kinshasa. Les ministères publics avaient proposé que la cour juge uniquement les accusés présents. Les parties civiles ont vivement réagi, disant que cette option ne permettait pas d'entendre les témoignages d'un des policiers en fuite qui a mis en cause l'ancien chef de la police, le général John Numbi. La haute cour a donc renvoyé l'audience au 30 avril. 5 des 8 accusés étaient présents, dont le colonel Daniel Mukalai, ancien numéro 2 des services spéciaux de la police, condamné à mort pour avoir orchestré l'élimination de Chebeya. 3 autres agents de la police condamnés à mort en 2011 sont toujours en fuite. L'enquête menée avant le jugement de 2011 avait été dénoncée par les partis civils et des organisations de défense des droits de l'homme. Ces procès reprend dans un climat tendu à l'approche de la présidentielle de novembre 2016.
Conséquence de l'attentat contre l'université de Garissa au Kenya, le gouvernement annonce la suspension de 9 responsables des services de sécurité. Ils pourraient être inculpés de négligence criminelle. Une enquête préliminaire aurait en effet montré que des hauts gradés de la police n'avaient pas mobilisé leurs services avant ce raid sanglant, en dépit des avertissements émanant des services de renseignement. 148 personnes, dont 142 étudiants, ont été tuées le 2 avril lors d'une opération commando revendiqué par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab.
Et justement, à propos d'Al-Shabaab, Washington a annoncé hier avoir mis sur sa liste noire 2 dirigeants de l'organisation djihadiste somalienne. Jean-Roger Bion.
Ahmed Diriyé a pris la tête de Shabaab lorsque Ahmed Abdi Godane a été tué par une frappe d'un drone américain en septembre dernier. Mahad Karate est le chef du renseignement du groupe islamiste. Le département d'État précise qu'il a joué un rôle clé dans la récente attaque contre l'université Garissa au Kenya qui a fait 148 morts. Les 2 leaders des islamistes somaliens ont été désignés comme des terroristes par le gouvernement américain. Les Shabaab avaient déjà été désignés comme organisation terroriste par Washington en 2008. Malgré tout, ils ont revendiqué l'attentat lundi à Garoué, capitale de la région autonome du Puntland. 7 personnes, dont 6 employés de l'ONU, ont été tuées. Les islamistes somaliens avaient aussi revendiqué l'attaque contre le centre commercial Westgate en 2013 à Nairobi.
Et nous restons dans la région. La plupart des allégations visant des soldats de la force africaine en Somalie, la MISOM, accusés d'avoir violé ou exploité sexuellement des femmes et des jeunes filles dans le pays, ne sont pas prouvées. C'est en tout cas ce qu'affirme l'Union africaine, qui répond ainsi au rapport de Human Rights Watch, faisant état de 21 cas d'abus sexuels commis par des soldats de la MISOM. Mais selon l'organisation panafricaine, seuls 2 cas ont été établis.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Sahara occidental, prochainement au Conseil de sécurité, un projet de résolution encourageant le Maroc et le Front Polisario à négocier de manière plus intensive, doit être voté mardi prochain. Le texte, dont l'AFP a eu copie, appelle à améliorer les droits de l'homme sur ce territoire contrôlé par le Maroc, mais revendiqué par les indépendantistes du Front Polisario. La résolution proroge d'un an le mandat de la mission de l'ONU, la MINURSO, sans le modifier et en particulier sans y incorporer la surveillance des droits de l'homme que Rabat a toujours refusé.
Au Yémen, fin de la campagne aérienne de la coalition arabe lancée il y a près d'un mois contre les rebelles chiites. L'Iran s'en félicite, nous dit Claire Morin-Gibourg.
C'est le porte-parole de la coalition, le général Ahmed al-Assiri, qui a annoncé la fin de l'opération Tempête décisive contre les rebelles houthis issus de la minorité zaïdite chiite. Le général saoudien a toutefois précisé que la coalition pourrait intervenir pour empêcher les mouvements des rebelles et que le blocus maritime serait maintenu. Le général al-Assiri a affirmé qu'une nouvelle phase plus politique commençait, baptisée « Restauration ». Et l'espoir et portant sur la reprise du processus politique au Yémen, la fourniture d'aide humanitaire et la lutte contre le terrorisme dans un pays où Al-Qaïda est très actif. L'Iran est accusé depuis le début par Riyad de soutenir militairement les rebelles, ce qu'il dément, mais il a toutefois salué cette annonce, estimant que c'était un pas en avant vers une résolution politique du conflit. Dans le même temps, Washington a rapproché un porte-avions du Yémen et surveille un convoi de navires iraniens soupçonné de se diriger vers ce pays frontalier de l'Arabie Saoudite. Un déploiement qui permettrait aux États-Unis de préserver les options, selon un porte-parole du Pentagone.
À noter que la Maison Blanche a salué la fin de cette campagne aérienne au Yémen. Nous continuons à soutenir la reprise d'un processus politique avec l'aide de l'ONU et la facilitation de l'aide humanitaire, a déclaré à l'AFP Alistair Basquet, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.
Les négociations sur le nucléaire iranien reprennent aujourd'hui à Vienne. L'Iran et les grandes puissances ont pour délicate mission de trouver un accord définitif, et ce trois semaines après la conclusion d'un accord cadre le 2 avril en Suisse. L'objectif pour les grandes puissances est d'obtenir une réduction draconienne des capacités nucléaires iraniennes en échange d'une levée des sanctions internationales qui brident l'économie du pays. Il reste 70 jours aux négociateurs pour affiner les détails avant la date butoir du 30 juin. Cette nouvelle rencontre, elle, doit durer au moins deux jours.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Un spécialiste du trading à haute fréquence, Navinder Singh Sarao, basé à Londres, a été arrêté hier. Ses opérations faites de fraude et de manipulation sur le marché des contrats à terme électroniques ont contribué au mini-crack de mai 2010 aux États-Unis, selon les autorités américaines. Les États-Unis ont demandé son extradition. L'ampleur de la fraude porte au total sur 40 millions de dollars. À l'occasion de la Journée mondiale des luttes paysannes, l'ONG Oxfam et ses partenaires, dans le cadre de la campagne Cultivons, ont appelé la CEDEAO à redynamiser sa politique agricole commune. On écoute Jérôme Gérard, coordinateur régional recherche et politique pour l'Afrique de l'Ouest chez Oxfam.
Notre préoccupation, c'est vraiment que, à partir d'un discours politique qu'on entend de plus en plus fortement depuis quelques années, d'accorder une forme de priorité au secteur de l'agriculture et notamment comme base de développement général.
Le Qatar veut héberger 12 000 fans de foot sur des bateaux de croisière lors de la Coupe du Monde en 2022. Cette idée d'hôtel flottant avait été initialement évoquée il y a deux ans avant de prendre l'eau. La FIFA stipule que le pays hôte devra fournir d'ici 2022 au moins 60 000 chambres pour les spectateurs de la Coupe du Monde. Et le Qatar s'est même engagé à mettre 100 000 chambres à leur disposition.
C'était la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg. On passe au sport avec Bagassikoura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Morgane.
En football, huitième de finale de la Ligue des Champions en Europe.
Barça qualifié pour les quarts de finale au Camp Nou de Barcelone. Le Paris Saint-Germain a été battu 2-0. Deux buts de Neymar. À l'aller, Paris avait perdu au Parc des Princes 3-1. Quant au Bayern Munich, il a corrigé le FC Porto par 6-1. Ce soir, le retour du derby madrilène entre le Real et l'Atlético Madrid. Quant aux Français de Monaco, ils reçoivent la Juve de Turin.
Le football africain est en deuil. John Moshu n'est plus.
Oui, l'ex-milieu de terrain international sud-africain John Shuzo Moshu, champion d'Afrique 1996, est décédé hier d'un cancer à l'âge de 49 ans. Moshu comptait 73 sélections dans l'équipe nationale des Bafana Bafana. À l'étranger, il avait joué notamment en Turquie, à Fenerbahçe, puis à Bursaspor de 1997 à 2003. Ce qu'on retient surtout de ce joueur, c'est son rôle dans la victoire des Bafana Bafana en 1996 à Johannesburg. Un succès historique deux ans après la fin du régime de l'apartheid et l'élection de Nelson Mandela à la présidence. Il avait marqué 4 buts durant ce tournoi.
Stephen Keshi revient à la tête des Super Eagles.
Oui, Stephen Keshi a signé ce mardi un nouveau contrat de 2 ans mettant fin aux spéculations sur son avenir à la tête des Super Eagles. Eagles, absent de la CAN 2015, le contrat initial de 3 ans de Keshi, qui avait conduit le Nigeria à la victoire finale à la Coupe d'Afrique des Nations 2013, avait pris fin après le Mondial 2014. Le Nigeria avait été éliminé en 8e de finale par la France. Et pour terminer, Morgan, quelques résultats des play-offs de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Hier soir, les Boston Celtics ont perdu face à Cleveland 91-99. Dallas s'est incliné face à Houston 99-111. Et les Washington Wizards ont vaincu les Toronto Raptors 117-106.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerrier, en votre compagnie pour cette édition du mercredi 22 avril 2015. Place au dossier du jour. En Guinée, 6 mois de prison ferme pour des manifestants. 12 personnes ont été condamnées par le tribunal de Dixine pour trouble à l'ordre public après des heurts entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre à Conakry. Ces personnes avaient été arrêtées après les manifestations des 13 et 14 avril entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre. Et ces violences ont fait 2 ou 3 morts selon les bilans respectifs du gouvernement et de l'opposition et plus d'une dizaine de blessés. C'est un déni de justice et une farce judiciaire, a indiqué leur avocat à VOA Afrique. Nicolas Pinault a joint Maître Tierno Souleymane Badé.
C'est un jugement que nous trouvons vraiment déplorable, dans la mesure où, pendant le procès, il n'y a eu aucun élément de preuve qui a été présenté par le parquet pour démontrer effectivement que les prévenus en question ont commis les actes que le reproche. La plupart d'entre eux, ils sont arrêtés pour attroupement, alors que c'est des gens qu'on trouve soit à leur domicile, soit au niveau de leur lieu de travail. Il y a certains même qui ont été arrêtés entre 1h et 2h du matin. Dans ces conditions, il est impossible de parler d'attroupement. Mais il y a vraiment une idée qui consiste à réprimer systématiquement toutes les personnes qui sont arrêtées pour essayer de dissuader ceux-là qui souhaiteraient éventuellement sortir pour manifester.
Et alors vous allez faire appel ?
Nous avons déjà fait appel, mais là aussi c'est un autre problème qui se pose puisque la loi nous autorise à chaque fois quand il y a des condamnations de faire appel et d'aller devant la juridiction supérieure pour faire valoir nos droits. Mais malheureusement, les juges, lorsqu'ils prennent des décisions de condamnation, ils refusent d'écrire les décisions et ce qui de facto dénie la possibilité d'aller devant la juridiction supérieure puisque nous n'avons pas une décision, on ne peut absolument rien faire. Les personnes qui ont été arrêtées le 7 janvier 2015, qui ont été condamnées à 3 mois de prison ferme, ils ont dû en fait rester en prison pendant les 3 mois tout simplement puisque le juge n'a pas voulu réviser sa décision afin de nous permettre d'aller devant la cour d'appel. Donc c'est ce qui est extrêmement grave, parce que nous ne pouvons pas d'un côté dire ok, nous allons devant la justice, il faut appliquer la loi, c'est l'exception de certaines dispositions de la loi, et ensuite il en ignore d'autres. Sinon tout le monde le sait, quel que soit le pays concerné, c'est un droit inaliénable pour tout citoyen de pouvoir bénéficier le double degré de juridiction. Mais si de facto, lorsque vous êtes condamné, on refuse à ce que votre dossier soit transféré au niveau de la cour d'appel, cela démontre naturellement l'état de notre justice.
Maître Tierno Souleymane Baldé.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
C'est demain que le magistrat burkinabé Berdéo Gustave Kam prendra fonction à Dakar en tant que président de la Cour d'assises des Chambres africaines extraordinaires, chargé de juger l'ancien président tchadien Hissène Habré à Dakar. Il a occupé plusieurs postes dans son pays, a été pendant 8 ans juge au tribunal pénal international pour le Rwanda, Arusha en Tanzanie. Monsieur Kam sera assisté de 2 assesseurs sénégalais, Amadi Diouf et Mustapha Ba. Timothée Donangmaï lui a demandé son sentiment au moment où il s'apprête à prendre en main un procès de haut profil.
J'imagine que c'est un dossier très important au regard de toutes les interventions, des demandes qui sont faites par ce panel-là pour intervenir par rapport à ce dossier. Donc j'imagine, je me rends compte en tout cas que c'est un dossier, un autre challenge qui s'offre à moi, mais je me dis qu'avec les signes que j'ai pu acquérir au niveau du Rwanda, c'est de pareils dossiers parce que je n'ai pas sans dire que au niveau du Rwanda également, ce sont des crimes internationaux que nous avons eu à connaître. Donc je me dis que c'est un challenge et c'est une première fois que l'Union africaine met en place une telle structure à l'effet de juger les dirigeants pour des faits reconnus comme crimes internationaux. Mais enfin, j'essaierai avec tous les collègues de l'environnement de faire face à ce dossier.
L'ancien président Abré a déjà été condamné à mort par contumace à N'Djamena. Ses anciens collaborateurs viennent d'être condamnés également au Tchad. Est-ce que cela a une importance pour le procès de Dakar?
Oui, cela a une importance parce que dans le statut qui régit de la Cour la Chambre africaine, et dit que toute investigation qui peut éclairer la Chambre, c'est être la bienvenue. Maintenant, il appartient au juge d'avoir un certain discernement pour pouvoir utiliser ces éléments de preuve. On ne les prendrait pas comme étant déjà un acquis, mais ça pourrait servir effectivement à éclairer l'antenne de la Chambre.
Quel est votre souhait vis-à-vis de toutes les parties?
La coopération. On ne se dit pas que c'est déjà acquis d'avance, soit la culpabilité ou non. Mais comme on dit, qu'on mène sérieusement les débats et que chacun fasse la paix de ce qu'il va avec.
Berdéo Gustave Kam, président de la Cour d'assises des Chambres africaines extraordinaires, chargé de juger l'ancien président tchadien Hissène Habré.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Et nous partons au Togo, qui s'apprête à élire son président samedi. Les Togolais ont le choix entre 5 candidats qui proposent chacun un projet de société. Et pour les aider, la population à les départager, les grands axes de ces programmes ont été présentés par les candidats ou leurs représentants lors d'un débat public télévisé. Dans ce reportage de Kayi Lawson, la société civile donne son appréciation.
Encore 48 heures pour les candidats à la présidentielle pour pouvoir conquérir les indécis. Depuis une dizaine de jours, les potentiels futurs présidents du Togo expliquent leur programme de société aux électeurs afin de solliciter leur voix. Pour Cyril Comelin, membre de la plateforme citoyenne, les candidats n'ont pas fait ressortir dans les projets de société leur vision pour le Togo. Il les classe hors sujet.
La plupart des candidats n'ont pas compris le sens d'un projet de société. Il ne s'agit pas de dire que dans tel secteur nous allons régler tel problème, dans tel secteur nous allons régler tel problème, non. Je crois que l'exercice est plus élaboré, plus fin que cela. Il s'agit de dire, dans 20, dans 30 ans, notre parti veut construire tel type de Togo. Et ce mandat va nous aider à continuer ou à entamer un processus de développement réel. Si on commence à dire, on va juste travailler dans les différents secteurs, on aura raté le coche parce qu'au final, on ne trouvera en réalité aucun résultat concret. Puisqu'on ne vise rien en soi, on ne veut que régler des problèmes. Ça, c'est juste la gestion des affaires courantes. Et c'est en deçà de mes attentes.
Dans les projets de société, les candidats proposent de lutter contre le chômage en ayant recours aux investisseurs étrangers. Pour le syndicaliste Ayao Bandou, la solution ne réside pas forcément dans ces investissements étrangers.
Dans le cas où on vous dit on va faire venir des investisseurs, on sous-tend souvent des moyens de corruption et non-respect d'un certain nombre de trucs. Or, on a la possibilité de créer des emplois ici. Et il y a des emplois qui existent. On devait les renforcer et malheureusement pour tous les candidats, on entend toujours nous allons faire venir des investisseurs pour résoudre le problème de l'emploi. Et pour nous, le problème de l'emploi au Togo n'appartient pas seulement aux investisseurs étrangers. Il faudrait que les ressources que nous avons au Togo puisse être mise à la disposition du développement local et du développement national.
Le groupe de réflexion et d'action femmes, droits et développement s'est intéressé à la place réservée à la gente féminine dans ces programmes de société. Mika Fuiakwe, chargée de programme au GF2D.
Les candidats nous ont quand même assuré qu'ils prenaient en compte d'une manière ou d'une autre la question de la femme. Et ce que nous pourrons dire, c'est que des stratégies concrètes ne sont pas visibles et nous, ce que nous voudrions, c'est justement qu'on puisse prendre en compte le genre, prendre en compte les besoins spécifiques des femmes dans toutes les décisions, toutes les politiques qui doivent être prises par le nouveau gouvernement qui sera mis en place à l'issue de cette élection. Sur tous les plans, aussi bien participation politique, la vie sociale, l'économie, et nous veillerons à chaque fois que le gouvernement devra prendre des mesures pour que la femme soit mieux représentée.
La campagne électorale s'achève le jeudi 23 avril, mais déjà ce mercredi, les forces armées votent par anticipation. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Cette semaine, Washington Forum vous emmène en Afrique du Sud. Depuis plus de deux semaines, le pays connaît un nouvel épisode de violence xénophobe. Comment expliquer ce sentiment de haine envers les immigrés? Pourquoi le gouvernement sud-africain a-t-il du mal à contenir la situation? Nous aborderons aussi un autre volet de la thématique de l'immigration. La Méditerranée est devenue un véritable cimetière maritime qui laisse l'Europe perplexe. Que faut-il faire pour y remédier? Qu'est-ce qui pousse ces malheureux exilés entre les mains de véritables mafias sans scrupules? Retrouvez-moi, Salwa Jafari, pour un nouveau Washington Forum ce jeudi 23 avril à 19h, temps universel.
En Afrique du Sud, l'armée va être déployée dans le township d'Alexandra à Johannesburg pour aider dans la lutte contre les violences xénophobes qui ont fait au moins 7 morts. Sur la spécificité du bidonville d'Alexandra, Idriss Fall a joint Armand Bokoko, un informaticien congolais qui habite à Johannesburg.
Alexandra, c'est un endroit près de centre commercial qui est Santon. Il y a eu un cas de violence et de meurtre. Le jeune homme vendait ses articles et même la cigarette. Des voyous arrivent, sud-africains, ils viennent, ils prennent ses articles sans même payer. Ils savent qu'il est étranger, ils abusent pour lui faire du mal car il a réclamé ses droits pour qu'il soit payé. Ça se généralise dans tous les bidonvilles. Chaque immigrant qui habite avec les autochtones de l'Afrique du Sud se sent en danger. Moi, j'appelle pas xénophobie, moi j'appelle ça afrophobie. En voyant que les Africains qui viennent d'ailleurs, qui immigrent en Afrique du Sud, que ce soit légalement ou illégalement, arrivent à se débrouiller. Dans les bidonvilles, pas seulement à Jobu, à Durban, cette situation peut se déclencher dans toute l'Afrique du Sud.
Comment expliquez-vous que des Noirs sud-africains s'attaquent à d'autres Africains noirs?
Les Africains noirs qui ont émigré de leur pays pour immigrer en Afrique du Sud, la plupart, ils ont quand même étudié. Quelqu'un qui a fait ses études secondaires, il a quand même au moins une idée comment se débrouiller dans la vie. Bon, maintenant, avec les conséquences de l'apartheid en Afrique du Sud, la basse classe, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, ce pays nous appartient, nous sommes majoritaires. Depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ne met pas un système pour intégrer ceux qui n'ont pas pu étudier. Aussi, il y a un problème de système d'éducation. Les études en Afrique du Sud, ce n'est pas libre, ça coûte cher. Maintenant, ça crée un conflit parce que quand on voit les immigrants arriver, il y a la jalousie, il y a le meurtre, il y a le vol. Il y a tout. Le problème des crimes n'est pas résolu en Afrique du Sud. Il y a toujours la criminalité. On voit que les Africains noirs qui viennent en Afrique du Sud pour se débrouiller, ils sont maintenant devenus des cibles pour dire que vous êtes venus ici pour prendre nos travails. Par exemple, le système d'immigration. Les officiers d'immigration dans toutes les frontières de l'Afrique du Sud sont mal payés. S'ils sont mal payés, il y aura la corruption. Et la corruption bat son plein. Ceux qui ont les papiers légaux, ils entrent. Ceux qui n'ont pas le papier légaux, ils entrent aussi. Toutes ces personnes s'infiltrent dans les communautés. C'est surtout les Somaliens. Les Somaliens ont un esprit d'entreprise. Ils se débrouillent et leurs affaires montent. Ce qui fait que les autres, les autochtones, regardent cela. Je dis, mais non. Ces gens viennent prendre le travail. Alors, ils ne sont pas contents. En 2008, si vous vous souvenez, il y a eu cette sursaut de xénophobie. On a brûlé même les gens. On a tabassé les immigrants. Au lieu de trouver une solution pour le futur, jusqu'à présent, cette situation n'est pas encore résolue. Quand un leader, un dirigeant parle pour la paix, et comme le président a parlé de la paix, les autres se disent, mais moi, vous parlez de la paix, mais nous, on a faim, il n'y a pas à manger, et nous, on va continuer à terroriser les autres. Les étrangers qui vivent avec la communauté dans les bidonvilles.
Armand Bokoko, un informaticien congolais qui habite à Johannesburg.
Cette semaine, Washington Forum vous emmène en Afrique du Sud.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
In all the right places, got me
au micro Morgane Guirier, Canal Bertson à mes côtés. Un grand merci à toute la rédaction. Ainsi va le monde aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.